Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tilt. Je m'appelle Swann Périssé, je suis influenceuse et humoriste, et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais, on me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique, quand est-ce que ça a fait tilt. Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours « Ah !» Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit tilt. Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter. Ça s'écrit T-I-L-T et sur Insta, ils postent des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités.
Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur.
Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah non, pardon. Un très bon podcast. Binge Audio. De faire un maximum de bruit pour l'écolo à la voix la plus agréable de France, le seul réalisateur dont on a regardé les documentaires, le poète de France le plus résilient, Cyril Dion. Du bruit pour Cyril, s'il vous plaît. Voilà. Cyril Dion, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous ce soir, car c'est la première fois depuis le début de cette émission qu'on reçoit quelqu'un qui a le même nom de famille que Céline. Mais Dieu sait que c'est un...
J'ai jamais fait cette blague, jamais.
Non, hyper bien, hyper creusé, des années de recherche. Et Dieu sait que c'est important pour l'écologie que Céline soit dans le combat. Vous vous décrivez comme auteur, réalisateur, et poète, et militant écologiste. Ce sont quatre métiers où si on regarde dans vos poches, on trouve soit de la cocaïne, soit de la farine d'épeautre.
Soit les deux.
Arrêtez, ça me fait de l'effet. Vous êtes né dans les Yvelines, dans un environnement riche, avec un père banquier dans la gestion de patrimoine. C'est donc tout naturellement que vous vous êtes dit « Et si je faisais absolument pas ça de ma vie ?» Et si je devenais un artiste pauvre, allez, feu. Après le bac, vous rêvez de devenir comédien. Vous entrez dans une école d'art dramatique. Et après 3 ans d'études acharnées, c'est la gloire. Vous décrochez le rôle du complice, du brocanteur, dans le téléfilm Une femme d'honneur.
Un rôle à Oscar.
Et bien sûr, le rôle qui fera toute votre carrière. Celui du gratteur de tickets dans une pub pour la Française des Jeux. Lassé par le bling-bling d'Hollywood. Brad Pitt qui n'arrêtait pas de vous harceler au téléphone.
Insupportable.
Julia Roberts qui vous disait « Oui, c'est quand le prochain rôle, Cyril ?» Vous prenez un virage à 180 degrés et vous étudiez la réflexologie plantaire. Vous vous mettez à masser les salariés tendus de grands groupes et vous dites dans une interview que c'est là à ce moment, que vous découvrez que vous pouvez aider les autres.
Je ne savais pas.
Vous avez attendu d'enlever les chaussettes d'un manager proche du burn-out pour découvrir que vous pouviez aider les gens, tenir la porte, sinon ça ne marche pas mal.
Je viens des Yvelines.
Offrir un café, demander comment ça va aujourd'hui à la boulangère. Vraiment, c'est sourire dans le métro. Non, ça c'est terrifiant, non. Ne faites pas ça. Et vous dites, les gens se mettaient à pleurer tellement ils étaient tendus. Hyper mauvais masseur, en fait. Après le succès dans la comédie, puis dans le massage, vous changez de vie à nouveau. Et vous rejoignez une fondation qui organise les premiers congrès mondiaux qui réunissent des imams et des rabbins pour la paix entre Israël et la Palestine. Et comme on le voit aujourd'hui, c'est une immense réussite.
Ne me remerciez pas.
Bravo à vous. En 2007, vous créez avec Pierre Rabhi notamment le mouvement Colibri, une association qui invite chacun à faire sa part pour sauvegarder l'environnement. Le nom de Colibri vient d'une légende amérindienne qui raconte l'histoire d'un petit oiseau colibri qui, lors d'un incendie, aller chercher quelques gouttes d'eau avec son petit bec pour les jeter sur les immenses flammes. Et les autres animaux de la forêt se moquent de lui et font plein de sarcasmes. Et le colibri répond « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je fais ma part. » Au début, vous étiez convaincu que c'était grâce aux petits gestes de chacun qu'on allait pouvoir arrêter la catastrophe climatique. Et puis vous vous êtes rendu compte que dans la forêt, caché au frais dans les lacs, il y avait des gros hippopotames qui ne bougeaient pas trop leur fiac pour arrêter l'incendie. Il y en a un qui s'appelait même Hippopopouyané. Apparemment, il n'arrête pas de lâcher des caisses et ça attise encore plus le feu. Sacré Hippopopouyané. C'est pour ça que vous avez décidé, avec les autres animaux de la forêt, de trouver des moyens de forcer les hippopotames à sortir de leurs étangs pour éteindre l'incendie. Parce que c'est quand même vachement plus efficace que les petits oiseaux avec leur bec ridicule. Le grand public vous a découvert en 2015, année de la sortie de votre documentaire. Demain, co-écrit et co-réalisé avec Mélanie Laurent, vous avez reçu le César du meilleur film documentaire. Et vous avez fait plus d'un million d'entrées. Brad Pitt vous rappelle, vous le laissez en vue. Bref, c'était un succès retentissant. Pour réaliser demain, documentaire écolo, vous êtes allé en Suisse, en Belgique, en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande, en Grande-Bretagne, en Inde, aux États-Unis et à La Réunion, et vous êtes bien sûr allé dans tous ces pays en voilier. Sinon, ça ne s'appelle pas réaliser un documentaire, ça s'appelle être une bombe climatique. Non, alors pour ne pas vous jeter totalement la pierre, vous avez changé votre bilan carbone dans les films que vous avez réalisés qui ont suivi. Vous avez réalisé des interviews en visioconférence dans Un Monde Nouveau, par exemple. Trois documentaires qui sont sortis sur Arte il n'y a pas longtemps, dont je suis fan. Ça paraît anecdotique, mais il faut se dire qu'avant, on ne se posait même pas la question quand on réalisait des films du bilan carbone. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de l'émission Ushuaïa, par applaudissement. C'était une émission télé animée par Nicolas Hulot. Il filmait des lieux incroyables sur Terre et il nous disait « Vous voyez ça? C'est magnifique! Il faut en prendre bien soin, les amis !» Puis il saluait la Terre, la caméra et la Terre, depuis son hélicoptère. « Hey! Allez, ciao! Je vais prendre soin des femmes, maintenant !» Yeah! En 2019, vous proposez à Emmanuel Macron en personne de mettre en place une convention citoyenne pour le climat. Des citoyens sont tirés au sort pour imaginer 149 mesures écologiques. Macron s'exclame alors « Je reprendrai toutes les mesures sans filtre !» Et il tient sa promesse, puisque sur 149 mesures, il en reprend 18 dans la foulée. Vous refusez d'être nommé chevalier de l'Ordre national du mérite, notamment pour protester contre les violences policières. Plus précisément, j'ai lu que vous n'avez jamais accompli les démarches administratives pour recevoir votre décoration. Entre nous, vous avez juste refusé la Légion d'honneur parce que vous n'aviez pas d'imprimante.
Phobie administrative.
Comme moi, vous ne savez pas où on achète des timbres, en fait. Genre. Au bureau tabac, à la pharmacie et à la poste. Oui, mais à la poste, il n'y a pas d'enveloppe. Donc où est-ce qu'on achète les enveloppes, en fait? Est-ce qu'on peut se révolter contre ça, s'il vous plaît? Je vois une seule personne qui comprend mon délire là-bas, au fond. Voilà, personne ne sait. Vous dites souvent que quand vous avez besoin de vous détendre, vous allez en forêt et vous pratiquez le tree-hugging. Alors, le tree-hugging, pour ceux qui ne seraient pas allés en cinquième, et pour une personne très âgée au deuxième rang qui me regarde comme ça, c'est le fait de faire des câlins aux arbres. Voilà. Donc vous passez votre vie à essayer de rendre sexy la lutte contre le réchauffement climatique. Et publiquement, quand vous voyez un arbre, vous faites... Ce bon chêne qui produit un maximum de glands. J'imagine trop les gens qui passent à côté de vous à ce moment-là, en faisant un footing. Bah, j'ai voté Zemmour, alors. Aujourd'hui, grâce à vos films, vos livres, vos poèmes, votre engagement militant, vous contribuez régulièrement à élever les consciences pour la sauvegarde de notre environnement, des animaux, des plantes et des hommes. Et pour ça, Cyril Dion, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça va, Cyril ?
Ça se passe pas mal, là. Je me suis bien fait refaire le portrait, quoi. Beurrer la tartine, tout ça.
Dans vos documentaires et dans vos livres, notamment dans le petit manuel de résistance contemporaine, que je montrerai en détail tout à l'heure, vous donnez plein d'exemples de victoires démocratiques et écologiques partout dans le monde. Des victoires législatives, par exemple. Par exemple, quand Extinction Rebellion a bloqué les ponts de Londres pendant plusieurs jours et que le Parlement a déclaré l'urgence climatique et environnementale. Vous parlez aussi du moment où Julia Hill, surnommée Julia Butterfly, est restée plus de 2 ans en haut d'un arbre et a empêché une grosse entreprise de détruire des séquoias centenaires. Ou encore, vous montrez les potagers urbains à Cuba qui assurent la survie alimentaire des villes. Quel est l'exemple de résilience ou de régénérescence qui vous a le plus marqué? Et est-ce que vous pouvez nous le raconter?
Je crois que c'est quand on a été au Costa Rica pour filmer pour Animal, donc un autre film qui est sorti il y a 2 ans, et où on s'est retrouvé dans une forêt qui avait l'air d'être une forêt primaire, vraiment une jungle, et ils nous expliquaient que à cet endroit-là, 40 ans plus tôt, c'était des pâtures avec des animaux qui broutaient de l'herbe.
Des animaux d'élevage.
Ouais, des vaches, quoi.
Pas genre, on a tué tous les animaux, on a mis des arbres. Non, c'était pas ça.
Et en fait, le Costa Rica a décidé, dans les années 80, d'arrêter la déforestation massive pour l'élevage et de replanter des forêts, bien plus rapidement que d'autres pays d'Amérique du Sud. Et là, on était déjà face à des forêts qui, pour nous, ressemblaient à des forêts primaires, qui l'étaient pas encore, parce qu'il faut 90 ans pour qu'elles le deviennent. Et c'était stupéfiant, et on se baladait dans ces forêts, on se levait à 5h du matin avec les yeux comme ça, et on voyait des animaux sauvages traverser le petit sentier sur lequel on marchait, des tapirs, on voyait des toucans, on voyait des paresseux, qui avaient absolument pas peur des humains parce qu'ils avaient jamais été chassés. Ils avaient même pas conscience que les humains pouvaient être dangereux. Et ça, c'était quand même une expérience assez incroyable.
Et en un mot, est-ce que vous pouvez juste expliquer la différence entre une forêt primaire et une forêt classique ?
Une forêt classique.
Personne n'a compris cette private joke.
Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a pas été, enfin, ou c'est une forêt qui a jamais été touchée par les humains. Donc, il y a toujours tout un tas de fonctionnements qui se sont élaborés par eux-mêmes, ou c'est une forêt qui est redevenue autonome et qui n'est pas exploitée du tout par les humains. C'est-à-dire que l'idée que il faut absolument entretenir les forêts parce que sinon elles vont être en mauvaise santé, elles vont mourir, est un peu ridicule quand on se balade dans une forêt primaire qui n'a jamais vu d'humains, ou en tout cas pas d'humains qui avaient des tronçonneuses.
Ici, dans Il n'y a plus de saison, on essaye de parler des vies qu'on pourrait vivre. Et vous avez vu plein de lieux fous. Et donc, il y a eu le Von Project à Vienne. C'est un immeuble super stylé dans lequel je rêve de vivre un jour. Je passe un message aujourd'hui, voilà, aux Viennois. Vous avez rendu visite à des gens qui vivent dans des arbres, dans des écolieux. Vous connaissez très bien tout ça. Quand vous êtes fatigué de la vie parisienne et tumultueuse, où est-ce que vous aimeriez vivre dans le monde ?
Je ne sais pas si j'aimerais vivre à un seul endroit, parce que j'aime bien la ville. J'aime bien la ville et j'aime bien la forêt ou la montagne ou la mer, mais j'aime bien pouvoir aller de l'un à l'autre, avoir une maison secondaire finalement.
Un message à répandre partout, c'est super.
Si ça pouvait être possible, s'il vous plaît. Non, je pense que je vivrais pas très loin d'ici. En fait, j'ai pas d'envie.
Vous aimez votre vie maintenant comme elle est?
J'ai pas d'envie hyper exotique, moi. J'ai jamais eu envie d'aller habiter, j'en sais rien, au Japon, aux États-Unis, en.
Non, et même en France, dans des écolieux, en communauté, des trucs comme ça.
Je crois pas que j'aimerais vivre en communauté dans des écolieux.
Petit message à tous les écolieux qu'il a visités. C'était pas ouf, ouf.
En règle générale, les gens qui veulent vivre dans des écolieux, c'est les gens qui n'ont jamais été dans des écolieux.
Il faut adorer l'odeur des toilettes sèches.
Non, c'est plutôt les humains le problème en général, c'est pas les toilettes sèches. Parce que j'ai eu des toilettes sèches pendant assez longtemps, mais les humains, c'est beaucoup plus problématique.
Et pourtant, le papier biodégradable. Bon, bref. On va parler des exemples mondiaux de victoire qu'il y a eu et que vous avez documenté. Vous avez filmé les organoponicos à Cuba. Donc, en gros, c'est des potagers en ville qui se sont construits, en gros, en 1991, il y a l'effondrement de l'URSS et Cuba vivait de façon alimentaire, surtout grâce aux importations de l'URSS. Et en échange, ils donnaient du sucre. Il y a l'effondrement de l'URSS, ils se retrouvent grave en galère. Ils disent, comment ça? On peut pas manger du sucre matin, midi et soir, c'est pas ouf. Donnez-nous des blettes. Et donc là, ils ont créé, enfin, ils se sont rendus compte qu'il fallait bien qu'ils créent l'indépendance alimentaire à la maison. Et ils ont créé des grands jardins potagers. Et aujourd'hui, par exemple, à La Havane, l'un de ces jardins potagers fournit les gens qui habitent à La Havane, enfin, fournissent 50% des fruits et des légumes de là-bas. Et pour vous donner une échelle à peu près, à Paris, ce qui est produit en Île-de-France, c'est à peu près 10% des fruits et légumes. Donc c'est absolument exceptionnel. Est-ce que donc et c'est pas du tout hyper riche. C'est pas du tout un truc pour les bobos riches écolos.
La Havane, ils sont pas du tout hyper riches. Non.
Voilà. Et donc moi, ma question, c'est à quoi ça ressemblerait cette autosuffisance alimentaire dans les grandes villes européennes?
Ben, en fait, ça ressemblerait à ce qui existait à Paris entre 1850 et 1900, où Paris était complètement autosuffisant en fruits et légumes, enfin en légumes, pardon, et exportait même des légumes en Angleterre, parce que les maraîchers de Paris avaient développé des techniques incroyables qui leur permettaient de faire, c'est un peu technique, mais 8 rotations, c'est-à-dire que sur le même espace où vous allez cultiver des légumes, vous allez pouvoir faire 8 cultures différentes. Donc une fois, j'en sais rien, une fois des patates, une fois des choux-fleurs, une fois des... Bon, 8 fois. Aujourd'hui, un maraîcher fait une rotation. En moyenne, c'est 1,3. Donc c'est assez nul par rapport à ce que les maraîchers de Paris étaient capables de faire entre 1850 et 1900.
Et les critères de sexy de Cyril Dion, c'est assez nul. Mais
c'est assez nul.
T'as mis que des patates.
Et pourtant, à l'époque, Paris avait à peu près le même nombre d'habitants que maintenant, c'est-à-dire à peu près 2 millions, donc ils vivaient de façon un peu moins confortable.
Et brièvement, pourquoi c'est problématique? Parce qu'on pourrait se dire, bon, on donne de l'argent à des producteurs normands. Pourquoi c'est problématique, en fait, aujourd'hui, que toute la nourriture arrive de loin, en fait, dans les villes?
Que ça arrive de loin, c'est problématique parce que ça fait des milliers de kilomètres et que donc c'est des gaz à effet de serre. Mais c'est problématique aussi parce qu'on n'est pas... On perd en autonomie. Donc, si on dépend d'un autre pays, typiquement l'exemple de La Havane et de Cuba qui dépendaient de l'URSS pour lui fournir son alimentation, bah, le jour où l'URSS s'effondre, ça leur pose un problème. Mais de la même façon, nous qui sommes par exemple dépendants du gaz de Poutine ou du pétrole de l'Arabie Saoudite, ça nous conduit aussi à avoir des relations internationales, enfin des relations géopolitiques avec ces pays qui sont problématiques parce qu'on n'est pas toujours en mesure de leur dire ce qu'on aurait besoin de leur dire ou de se positionner clairement face à eux parce qu'on est dans une forme de dépendance. Donc qu'un pays soit plus autonome, c'est aussi lui permettre d'être plus libre de toutes les façons possibles. Et puis le fait que les gens soient en mesure de participer à produire leur nourriture, c'est aussi se rendre compte de ce que ça suppose. Et c'est vrai que d'avoir complètement délégué ça extrêmement loin, si on met à avoir une conversation hyper chiante sur ce que les anthropologues nous racontent du début de l'Empire, c'est-à-dire de ces civilisations qui décident d'asservir, une petite partie des gens qui décident d'asservir les autres, ben on pense que ça a commencé avec l'agriculture. Le fait qu'on crée une agriculture centralisée...
Avec la sédentarisation.
Avec la sédentarisation, que cette agriculture centralisée aille de pair avec
quand
l'armée...
Quand les gens étaient plus chasseurs-cueilleurs, ça a mis quelques milliers d'années quand même. Mais en gros, avant, les gens étaient plus libres. Ils, c'est hyper cliché. Ils cueillaient des baies, ils se construisaient des slips.
Ils couraient nus. Voilà.
Avec c'était des fourrures. Et après, en gros...
Il y a des recherches passionnantes là-dessus. Par exemple, Jared Diamond, qui a écrit Effondrement ou de l'inégalité dans les sociétés, il a été regarder des îles dans le Pacifique et il s'est rendu compte que les îles où les gens étaient chasseurs-cueilleurs étaient beaucoup moins belliqueuses que les îles où il y avait de l'agriculture.
Il a utilisé le terme belliqueux ?
Belliqueux, exactement. Moins guerrier.
Un super titre.
Parce que dans les îles où il y avait de l'agriculture, ils avaient un régime centralisé, ils avaient une police, ils avaient une armée. Et puis, au bout d'un moment, ils se disaient, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec notre armée? Bah, on va aller envahir l'île d'à côté. Et l'île d'à côté, c'était des chasseurs-cueilleurs. Et quand ils voyaient arriver l'armée, ils faisaient, hey, salut, en fait, des copains, ça va bien et tout ça.
T'as l'image des chasseurs-cueilleurs qu'on a, c'est abusé. Ils écoutaient Trio et tout.
Exactement. Et ils avaient aucune idée que, en fait, ces gens venaient pour les tuer ou les asservir. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement.
Mais quel rapport avec le potager? Désolé, j'ai déconnecté là.
Le rapport, c'est que avoir une société qui participe à construire son alimentation et qui ne délègue pas ça à un pouvoir centralisé, c'est une société qui est plus libre. Quelqu'un qui est capable de se nourrir par lui-même, c'est quelqu'un qui ne dépend pas d'une grande multinationale comme Bayer, par exemple, Bayer Monsanto, ou comme les grands supermarchés. Et donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui a la possibilité de ne plus être autant un esclave.
Apprenez à faire vos yaourts et vous serez libre. C'est le message. Pour en revenir à cette histoire, désolé, j'arrive pas à le dire, mais organoponicos, un petit peu d'accent, à Cuba, c'est pas juste des bons légumes toute l'année, c'est aussi une résistance au risque du réchauffement climatique qui est plus grande. En 2017, lors d'un énorme ouragan appelé Maria, Cuba a mieux résisté que l'île voisine de Porto Rico, qui était, elle, très dépendante des importations. Et donc cette île a recensé des milliers de décès de plus qu'à Cuba, c'est ce que vous expliquez dans l'un de vos documentaires d'Un Monde Nouveau. Et comment ça se fait qu'il y ait plus de morts quand on n'a pas de potager urbain ?
Ben, y a plus de morts parce qu'on n'a plus les infrastructures justement pour que l'alimentation arrive, on n'a plus les infrastructures pour produire de l'énergie. Tout ce qui nous permet d'être plus autonome nous permet aussi d'être plus résilients. C'est-à-dire le jour où il y a une catastrophe, typiquement à Paris, on a 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire si les camions n'arrivent plus, ben, vraiment, on peut plus se nourrir. Alors que si on est dans une ville comme la Havane, où on a suffisamment de fermes urbaines pour produire une partie de notre nourriture, on résiste plus longtemps. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ce que les Anglais appelaient les Victory Gardens, c'est-à-dire qu'ils ont dit aux Anglais, participez à produire une partie de la nourriture dans vos jardins potagers, parce que l'infrastructure justement d'importation va plus fonctionner. Donc c'est une façon de participer à l'effort de guerre et d'être plus résilient.
On va parler de toutes ces victoires mondiales que vous célébrez dans votre travail à travers un petit jeu. Oui, allez-y. Hyper organisé au niveau de la technique. Cher public, je vais vous raconter des histoires qui ont eu lieu dans le monde. Et vous devez me dire, parmi toutes celles que je vais citer, laquelle est vraie. Personne ne me répond. On essaye ?
Oui !
Ah. En Islande, en 2009, il s'est passé un truc de dingo. Mais quoi donc, Swann Périssé ? Le public est en délire. Il faut bien que je me chauffe toute seule parce que personne ne répond. Vous répondez par le chiffre de la bonne réponse. Donc en Islande, en 2009, 1. Il s'est passé qu'il a fait un peu chaud 3 jours d'affilée. C'est la réponse 1. 2. Un gros volcan est entré en éruption. Il n'y avait plus d'électricité, ce qui a forcé les habitants à s'éclairer à la bougie et à se chauffer à la lave. Le gouvernement islandais s'est exclamé « On a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est un ne pas papa !» Ça, c'est la réponse 2.
Qui est assez crédible, quand même.
Merci. 3. Les habitants ont pris des casseroles, souvenir, et se sont rassemblés tous les samedis après-midi pour faire du bruit jusqu'à la démission du gouvernement et la réécriture de la Constitution par le peuple, pour le peuple et dans le peuple. J'ai rajouté « et dans le peuple ». Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qui a fait « ouais ! Ouais ! Ouais ! On se chauffe avec la lave !» Cyril, un mot sur ce qui s'est passé en Islande en 2009 ?
Il faut que je dise la réponse ?
Non, mais je pense que les gens, ils savaient. Genre. C'était la réponse 3, vous aviez bien raison. Quel public intelligent. Vous voulez nous parler de ce qui s'est passé un peu ?
En fait, la crise économique de 2009 en Islande a été particulièrement sévère et les Islandais se sont rendus compte que une des raisons pour lesquelles ils avaient perdu leurs économies, c'était la collusion entre les banques et le gouvernement. Donc, ils sont descendus dans les rues, effectivement, avec des casseroles. Ils sont allés devant le Parlement toutes les semaines jusqu'à ce que le gouvernement, en gros, démissionne, ce qui s'est produit, ce qui a déclenché des nouvelles élections d'un nouveau Parlement qui était beaucoup plus féminin. On était à 45% de femmes pour 55% d'hommes, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Et ce nouveau Parlement qui a permis l'émergence d'un nouveau gouvernement a décidé de proposer aux Islandais de réécrire la Constitution pour que ce qui s'était passé ne se reproduise plus jamais. Ils l'ont fait. Il y a d'abord 1000 personnes qui ont été tirées au sort, qui ont élaboré les grandes lignes de cette nouvelle Constitution et qui ensuite ont désigné 25 d'entre eux pour la rédiger. Ils l'ont rédigée. Ils ont fait un référendum pour la faire approuver. Le référendum a été positif. Enfin, les gens ont voté oui, je crois, à plus de 60%. Mais en Islande, c'est un référendum consultatif. Et comme il y avait moins de 50% des personnes qui s'étaient déplacées, 49, je crois, le gouvernement a dit bah, vous savez quoi, on ne va pas appliquer cette nouvelle constitution. Et notamment parce que ce gouvernement était un gouvernement conservateur qui avait été élu quelques mois plus tôt en promettant aux Islandais qu'ils allaient les désendetter. Et donc, au moment décisif de dire « Allez, vas-y, on vote la nouvelle constitution et on change tout », les gens ont choisi plutôt l'argent, c'est-à-dire plutôt se désendetter que la constitution qui allait tout changer.
La fin de l'histoire est hyper déprimante. Pendant des mois, c'était une histoire incroyable, très inspirante. Il y a eu des documentaires qui ont été faits dessus. Ça a été vraiment un espoir démocratique fou, quoi, de gens qui arrivent, qui prennent le pouvoir, en fait, de façon démocratique. Ma question, c'est, est-ce que ça a servi à rien ?
Je ne sais pas si ça a vraiment servi à rien, parce que ça a permis aux gens de se rendre compte qu'ils étaient capables de s'approprier tout ça, qu'ils étaient capables de réécrire une constitution qui, en plus, datait d'il y a plusieurs centaines d'années. Et que tout ça était possible. Mais c'est un peu comme la Convention citoyenne en France. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte que c'était possible, l'idée, c'est quand même de le faire. Et pas simplement de se montrer les uns aux autres qu'on y arrive.
On en parlera longuement en détail après, mais on continue ce jeu incroyable et très crédible. En 2018, à Cape Town, en Afrique du Sud, il y a eu une sécheresse monstre qui a mis les réserves en eau potable de la ville presque à sec. Que s'est-il alors passé ? 1. Tout le monde est mort. Cape Town est désormais une ville fantôme, malheureusement, car c'était bien sympa. Sauf au moment de l'apartheid. 2. Restez concentrés, s'il vous plaît. Grâce à la bonne volonté citoyenne et aux mesures municipales, la consommation globale de l'eau a diminué de 60% en quelques jours et tout le monde a dansé la danse de la joie, mais sans y mettre trop d'énergie, parce qu'il fallait pas se déshydrater. Donc c'était une toute petite danse comme ça. 3. Des scientifiques locaux ont bâti en quelques jours seulement une station capable de transformer l'eau de mer en eau potable. Ce qui a permis à Elon Musk de dire « Vous voyez, la technologie nous sauvera! Et si on inventait une piscine volante? Comme ça, dès qu'on a soif, il suffit de monter dans sa fusée! Et voilà, on n'a plus soif !»
Bonne réponse.
Trop fort. Réponse 2.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Cyril Dion? Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui encore, quelques mois, quand il y avait plus de sécheresse, les niveaux de consommation d'eau ont à peine remonté.
Ouais. En fait, ils sont passés vraiment à un doigt du jour zéro, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet, donc ce qui est quand même dans une ville aussi grande que Cape Town était un peu le chaos. Et ils ont fait plusieurs trucs. D'une part, ils ont...
C'est des millions d'habitants. Hein.
Ouais.
Plus de 4 millions d'habitants.
Ils ont fait passer des messages à tous les habitants en leur disant... Réduisez la consommation en leur donnant des conseils. Mais ils ont aussi mis en place un système d'épuration des eaux usées, de phytoépuration, donc avec des plantes, qui a permis de recycler l'eau beaucoup plus rapidement et de la remettre en circulation pour pas avoir besoin d'aller en chercher de la nouvelle. Et C'est un exemple assez intéressant de coopération. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que quand les choses vont mal, les gens vont s'entretuer et que, comme sur la plage, ils vont dire « mais quand même, c'était ma plage ». Et en fait, non. C'est-à-dire que ça soit à Détroit, quand l'industrie s'est effondrée, que les gens se sont mis à se mettre ensemble pour faire des fermes urbaines, ou à Cape Town, ou face à cette catastrophe, ils se sont tous organisés pour économiser l'eau. Finalement, face à l'adversité... ça marche, enfin, les gens le font. Malheureusement, ils ont tendance à attendre que ça soit la catastrophe. Et si on leur propose de s'organiser avant, c'est-à-dire maintenant, en disant « le climat se réchauffe, peut-être qu'il faudrait qu'on s'organise pour faire quelque chose », ils font « mais non, on a le temps ».
Mais est-ce que finalement, montrer des exemples comme ça, donc c'est l'un des exemples les plus impressionnants, en plus c'est très visuel dans votre documentaire, il y a de la brume que en haut des montagnes et il n'y en a pas en bas. Je ne sais pas si je parle du bon exemple, mais je suis presque sûre que c'était celui-là. Et on est là, j'ai soif, mais c'est très haut. Waouh. Je connais bien le cycle de l'eau. Voilà. C'est très impressionnant, mais en même temps, c'est vraiment l'exemple dans l'un de vos trois épisodes de docu qui m'a plus fait me dire « Oh, bah, c'est bon, ça passe. Franchement, on va se débrouiller. » Est-ce que ce n'est pas contre-productif, cet exemple ? De dire « Franchement, on était à ça, mais on s'est dit « Allez, peut-être on boit moins. On se lave 15 jours sur deux, on y va. »
Peut-être. C'est-à-dire que le problème du solutionnisme, c'est un peu que les gens se disent « bon, bah, c'est bon. Il y a des gens qui vont s'en occuper, on sait comment faire, donc... »
Là, c'était commun quand même. C'était des décisions municipales, des contraintes,
ouais. Et
les gens qui se sont vraiment serrés les coudes.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent « de toute façon, le jour où ça craindra vraiment, on trouvera une solution. » Et c'est la base du technosolutionnisme, hein. C'est de dire « on va bien inventer un truc pour s'en sortir. » Et en fait, le danger de ça, c'est que face à des problématiques comme le changement climatique, qui sont irréversibles, c'est-à-dire que le jour où on dépasse 1,5 degré, on ne revient pas en arrière. Là déjà, le climat s'est réchauffé de 1,2 degré, on ne redescendra pas. Il faudrait des millions d'années pour que la température redescende. Donc nos conditions de vie se sont dégradées durablement. Donc attendre le dernier moment, là pour le coup c'est une vraie connerie. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas attendre le dernier moment. Même pour le Covid... on n'était pas prêt, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de truc. Bon, ça a provoqué plus de dégâts, il y a plus de gens qui sont morts, mais il y avait une réversibilité du phénomène. Là, il n'y en a pas. Voilà.
Yes, I. Que s'est-il passé en Irlande en 2009? 1. Pour la première fois de leur histoire, les Irlandais ont bu plus d'eau que de bière. 2. Une dizaine de prêtres se sont mobilisés contre un projet de gisement pétrolier et ont fait plier l'entreprise Shell. Et ils ont célébré leur victoire en produisant une bière d'abbaye nommée Shell.
Elle se fait rire elle-même de ses propres conneries.
C'est quand même hilarant, cette vanne. 3. Des gens ont été tirés au sort dans toute l'Irlande pour débattre. Merci de rire, Cyril. Mais il rigole parce que je rigole. Des gens ont été tirés au sort dans toute l'Irlande pour débattre sur le mariage homosexuel. Ils ont proposé de le rendre légal et ça a été ratifié par référendum. Et toute l'Irlande a bu beaucoup de bière Shell. Quelle réponse ? Qui a dit 1 ? C'est la réponse 3. Tout le monde a gagné sauf ce gros loser au premier rang. Un petit mot, Cyril, sur cet exemple encore de démocratie incroyable.
À un moment, les Irlandais étaient face à deux questions assez brûlantes, particulièrement en Irlande, qui est un pays très catholique, qui est « est-ce qu'on doit donner le droit aux homosexuels de se marier ?» et « est-ce qu'on peut avoir le droit d'avorter ?» et « est-ce que ça peut être inscrit dans la Constitution, ces deux choses-là » Sachant que l'Église catholique s'était prononcée contre ces deux mesures, et c'était même prononcé contre le fait qu'il puisse y avoir un référendum qui demande à la population son avis. Donc le gouvernement a décidé de tirer au sort un certain nombre de citoyennes et de citoyens pour les faire délibérer sur la question à ciel ouvert, donc on pouvait suivre sur YouTube leur discussion, c'était relayé dans la presse, pour que ce débat ait lieu dans toute la société en même temps que dans la convention citoyenne qui en parlait. La première qui a été organisée, c'était 66 citoyennes et citoyens tirés au sort et 33 députés parlementaires, justement pour essayer de casser cette espèce de mur qu'il y a entre les élus et les citoyennes et les citoyens d'habitude. Et la deuxième, donc la première a lieu les discussions courent pendant des mois et la préconisation de la Convention citoyenne, c'est de dire oui, il faut qu'on mette dans la Constitution le droit au mariage pour tous. Référendum approuvé à plus de 60% dans un climat social plutôt très apaisé, contrairement à ce qu'on a pu vivre nous en France où les gens s'insultaient devant les écoles maternelles. Deuxième tentative, en se disant cette fois on va avoir que des personnes tirées au sort et pas d'élus sur le droit à l'avortement. De la même façon, la Convention citoyenne délibère, propose que oui, ça soit inscrit dans la Constitution. À nouveau, le référendum est approuvé à plus de 60%. Ce qui montre que quand on a besoin de trancher des sujets complexes qui créent du conflit dans la société, finalement, la délibération est sans doute un des outils les plus efficaces pour y parvenir avant d'utiliser un référendum. Et donc, de ne pas donner le sentiment à une partie de la population qu'il y a une décision qui leur a été imposée par des élus, mais qu'ils ont totalement contribué à la prendre. Et c'est de cet exemple-là qu'on s'est inspiré pour faire la Convention citoyenne sur le climat en France.
Et c'est de cet exemple-là qu'on s'inspire aujourd'hui pour utiliser le 49.3 quatre fois par jour. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pourquoi est-ce qu'on parle du mariage homosexuel ? On y arrive, c'est la fin du jeu. Je sais que vous êtes très très triste car les réponses étaient très difficiles et très challengeantes à trouver. On va parler du tirage au sort et de comment ça peut être un miracle démocratique. Aujourd'hui, c'est bon, hein, wow. C'est beau titre. Hyper bien marqué.
Qui regrette quand même vachement d'être venu.
Wow. Aujourd'hui, on a l'impression que les peuples des pays riches ne sont pas concernés par l'écologie, qu'ils s'en foutent et que c'est pas leur première préoccupation. Et vous, vous dites que c'est parce qu'on nous écoute pas, en fait, qu'on nous donne pas les moyens de réfléchir et surtout de décider, et notamment parce que aujourd'hui, les gens se sentent pas du tout représentés dans leur démocratie quand ils décident des trucs, à moins que ça corresponde aux envies et aux décisions des 10% les plus riches de la population, ça arrive rarement dans les décisions politiques et au pouvoir. Et pour vous, l'une des solutions pour qu'on décide tous et toutes ensemble des vies qu'on pourrait avoir, c'est le tirage au sort. Et donc, quel est le rapport entre tout ce qu'on vient d'évoquer, le tirage au sort et l'écologie ? Je ne sais pas comment prendre ce rire.
Waouh ! Non, mais c'est parce que cette question
est très vaste.
Extraordinairement vaste. En fait, pour moi, la raison pour laquelle, depuis les années 70, donc on va dire presque depuis 50 ans, on n'arrive pas à résoudre la problématique climatique, c'est-à-dire qu'on sait, en gros, depuis la fin des... Depuis 1972, on sait que le réchauffement climatique existe, on sait les conséquences que ça va avoir, tous les gouvernements le savent, la plupart des grandes entreprises pétrolières le savent, et pourtant, en 2023, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'on en est toujours à avoir toujours plus d'émissions de gaz à effet de serre, on en est toujours à avoir des pétroliers qui investissent comme Total à 70% dans les énergies fossiles, on en est toujours à faire des COP avec le sultan Al-Jaber qui préside, on en est là. Donc on peut se dire, c'est quand même délirant. Enfin, je veux dire, on est complètement con. C'est-à-dire au point de vraiment ne pas du tout se rendre compte de ce qui se passe, ou alors peut-être il y a un problème démocratique. Et ce problème démocratique a été quand même relativement étudié par un certain nombre d'universitaires, et il réside dans le fait que l'immense majorité des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés. C'est-à-dire que c'est des immenses multinationales qui pèsent de tout leur poids pour que des décisions publiques soient prises dans leur intérêt. On le sait avec les pétroliers, par exemple, on sait maintenant, ça a été documenté notamment par une étude de Christophe Bonneuil du CNRS, on sait que Total et Elf en France ont publié des études pour semer le doute sur la réalité du changement climatique dès les années 70, on sait qu'Exxon a fait la même chose, je ne sais pas si vous avez vu ce moment qui était quand même sublime, c'est Alexandria Ocasio-Cortez, donc... députée démocrate aux États-Unis, qui est au Sénat et qui auditionne les scientifiques d'Exxon. Et donc, c'est deux vieux mecs, moustaches et tout, comme ça, un peu affagis, et elle leur dit, mais là, je suis face à un rapport, et je vois qu'en 1982, vous aviez prévu qu'en 2019, donc c'était l'année où elle les auditionnait, le climat se serait réchauffé de plus de 1 degré, et qu'on serait à plus de 415 ppm. Donc, 415 parties par million, c'est la concentration de particules de carbone dans l'atmosphère. Et c'est exactement à là qu'on en est. Et les mecs font, eh ouais, on était hyper forts. Et donc, elle leur dit, mais donc, vous saviez. Oui. Et donc, quand vous avez eu ces résultats, qu'est-ce que vous avez fait? Puisque c'est Exxon, donc votre employeur qui vous avait mandaté pour faire ces études, donc vous leur avez remis ce rapport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, en fait, ils ont non seulement rien fait, mais en plus, ils ont commandé des études pour faire croire que le changement climatique, ça n'existait pas. Et ensuite, pour faire croire que le changement climatique, c'était pas la faute des humains. Et ensuite, pour faire croire que oui, ça existait, mais qu'il fallait pas s'inquiéter, que c'était eux qui allaient devenir les leaders des énergies renouvelables et qu'ils allaient résoudre le problème. Donc ça, c'est un exemple, mais on le connaît aussi pour le tabac, on le connaît aussi pour les pesticides, on le connaît aussi pour les PFAS, ces polluants éternels, par exemple, les trucs qu'il y a dans les poêles téflon, là. Vous avez vu Dark Waters, peut-être, avec Mark Ruffalo, très bon film, je vous le conseille. Donc, tout ça se produit en permanence. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vécu aussi pendant la Convention citoyenne. Donc, d'une certaine manière, on a besoin de réinventer les modalités démocratiques. On se rend bien compte que juste voter pour des personnes tous les 5 ans, ça ne suffit pas à résoudre le problème, même quand ils font des grandes promesses. Par exemple, vous avez quand même remarqué qu'Emmanuel Macron, et en 2017 et en 2022, parce qu'en 2022, il a eu une espèce de moment là où il a dit oh, « Mon deuxième mandat, ça va être hyper écolo, vous
entre
allez
les
voir. »
Super genre, moment.
C'était pas du tout pour aller chercher les électeurs de gauche, c'était juste parce qu'en fait, à ce moment-là, il s'est dit mais
c'est épiphanie.
Mais c'est vrai, j'avais oublié en fait. C'est ce qui est d'ailleurs un truc très drôle parce que je sais quand je fais des débats après les documentaires comme ça, les gens après le débat en général sont là genre waouh putain c'est incroyable. Mais est-ce que vous avez montré ce débat, ce documentaire au président de la République et aux députés, tu sais comme si en fait ils avaient pas compris. En fait, c'est parce qu'ils font rien, mais c'est parce qu'ils sont pas au courant. Et donc, en fait, si on leur montre le film, ils vont faire « Ah, bah d'accord, mais oui !»
Les forêts primaires et les paresseux.
Mais je savais pas, mais bien sûr. Mais attends, mais je vais faire quelque chose. Mais vous faites bien de m'alerter, parce que je n'étais pas au courant. Donc je leur dis, en fait, ce n'est pas le problème. Ils sont au courant, je vous le révèle comme ça. C'est juste entre nous, ils le savent. Ils le savent, mais ils ne font rien. Donc... évidemment, ces promesses n'engagent que ceux qui les croient, comme on dit en règle générale. Donc, on a besoin d'inventer autre chose. Et il se trouve que le tirage au sort est une autre modalité démocratique. Vous m'avez lancé sur un sujet...
Oui, allez-y.
En fait, on a confondu la démocratie avec le vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense démocratie, on pense vote. La démocratie, ça veut dire voter. Sans se dire qu'il y a plein d'endroits où les gens votent, où c'est quand même peu ou prou des dictatures. Enfin, je veux dire, par exemple, la Russie, par exemple, le Venezuela, par exemple. Bon.
On vous entend même quand vous chuchotez dans le micro. Hein. Je ne sais pas si vous pensez être protégé de quoi que ce soit, mais on a tout entendu.
Je l'ai dit, alors je ne l'ai pas dit fort. Mais donc, le vote n'est pas du tout une garantie démocratique. Le vote est une modalité qui permet de choisir des représentants qui peut-être mener à un système plus démocratique. Mais il y a d'autres modalités démocratiques, comme le tirage au sort, qui est sans doute une des modalités de représentation les plus démocratiques, contrairement au vote qui est plutôt aristocratique, et qui permet en fait à n'importe qui dans la société, même s'il est con, même s'il est pauvre, même s'il est noir, de participer
au vote. On rigole plus, là. Hein.
Ah, ça vous fait moins rire, ça. Eh oui.
Calmez-vous, les Blancs.
De participer à la décision publique. Donc... de rentrer dans un processus où il va être en lien avec des experts qui vont lui exposer la situation et ensuite de délibérer. Et la délibération, c'est quelque chose d'absolument fascinant. C'est-à-dire que des gens qui sont absolument pas d'accord au début, quand on leur donne une information et qu'on leur permet de réfléchir et de discuter entre eux, et surtout si ce sont des gens qui ne viennent pas du même milieu, qui n'ont pas la même réalité dans leur vie, ils parviennent à des consensus qui paraissent absolument impossibles. Je vous donne un exemple. Pendant la Convention citoyenne, c'était le 110 km/h. Un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans l'hémicycle.
Je donne une toute petite précision. Convention citoyenne pour le climat, donc, grâce notamment à Cyril Dion, 149 personnes qui viennent de plein de milieux différents, qui se mettent ensemble pour proposer des décisions qui, normalement, devaient être soumises à l'Assemblée ou à un référendum pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. C'était bien résumé.
C'était magnifique.
Et le 110 km/h, c'est empêcher les gens d'aller à plus de 110 km/h sur l'autoroute.
Voilà, c'était dire on va rouler à 110 plutôt qu'à 130 sur l'autoroute.
Il s'est chauffé là, Cyril. Il a fait okay. On y va.
On va parler du 110.
On va parler du 110, je vais vous dire ce que j'apporte.
La première fois que quelqu'un arrive dans l'hémicycle et dit voilà, je propose qu'on vote ensemble une mesure pour dire aux Français qu'on va rouler à 110. Devinez ce qui s'est passé.
Sale bobo écolo de merde, de facho.
Il s'est fait insulter par tous les autres, ma bagnole, ma liberté, etc. À peu près comme ça se passe sur le plateau de Pascal Praud, voilà, ce genre de truc-là. Après avoir proposé cette mesure, il y a des experts qui sont venus et qui ont alimenté la conversation avec des chiffres, avec des données factuelles. Et un jour, il y a un garçon qui s'appelle Guillaume, qui était chargé du dossier, qui revient devant les 149 autres et qui dit « Bon, les gars, moi je travaille dans la logistique routière. Donc ça me concerne un peu cette histoire, puis ça m'arrange pas trop de rouler à 110 plutôt qu'à 130 avec mes camions. Mais j'ai regardé le truc en détail. Il se trouve que on va baisser de 20 à 25% les émissions de gaz à effet de serre. Pas mal. On va baisser de 20 à 25% la consommation d'essence. Donc ça va nous coûter moins cher. Ça va baisser la pollution de l'air. Ça va baisser la mortalité. Et le seul désagrément, c'est que ça va prendre 7 minutes de plus sur une heure. On va perdre 7 minutes. Donc si on n'est pas capable de faire ce tout petit effort-là, de perdre 7 minutes, on va faire quel genre d'effort pour que cette planète reste habitable ? On va faire quoi ? Et là, évidemment, les uns et les autres se sont dit « Il n'a pas tort, finalement. C'est pas complètement con, ce qu'il raconte. » Et donc, contre toute attente, cette mesure a été votée par la Convention citoyenne. C'est-à-dire qu'ils ont voté le fait de proposer aux Français de rouler à 110 plutôt qu'à 130 sur l'autoroute. Et Macron s'est empressé de mettre un joker dessus en disant « Non, c'est trop conflictuel, les Français ne seront jamais d'accord. » Donc là, vous voyez en fait quel est le décalage entre les élus qui disent « Les gens sont pas prêts, donc on va pas leur proposer des mesures ambitieuses parce qu'ils ne sont pas prêts » et un système de délibération qui permet à des gens qui effectivement n'étaient pas prêts si on leur propose comme ça et qui ont le sentiment qu'on leur impose, qui aboutit à ce que les gens eux-mêmes fassent la proposition. Et c'est ce qui s'est passé pour toute la Convention citoyenne, c'est-à-dire qu'ils ont fait un plan de 149 mesures qui va plus loin que ce que tous les gouvernements ont proposé ces 30 dernières années. Pour des gens qui théoriquement ne sont pas prêts, moi je trouve que c'est quand même pas mal.
Je vous laisse applaudir avant de casser l'ambiance. Le deal avec Macron, c'était on vous propose 149 propositions. Vous devez soit les soumettre à l'Assemblée, soit à un référendum populaire, sans les changer ni les amoindrir. Et ça s'est pas passé comme ça. Donc, par exemple, il y a eu ce veto sur le 110 km/h. On avait proposé d'interdire les vols où il y avait une alternative en train de moins de 4 heures. Et en fait, c'est interdire les vols où il y a une alternative de moins de 2h30. En train, hyper nul.
Mais alors là, juste, je fais une toute petite insiste, parce que là, il y a eu un truc assez magique pour vous rendre compte qu'on a un vrai problème démocratique. C'est que, effectivement, donc, le gouvernement a dit non, 4 heures, c'est trop, on va faire 2h30. Et ensuite, il y a eu ce qui s'appelle un décret d'application. Donc, un décret d'application, c'est les conditions qui doivent s'appliquer pour que la loi soit mise en vigueur. Et là, un génie dans l'administration a pondu ce décret d'application avec 5 conditions pour que la loi s'applique. Et parmi ces conditions, il y avait le fait que il devait y avoir une gare dans chacune des villes qui étaient reliées par l'avion. Donc jusque-là, on se dit, bah oui, ok, il y a un avion Paris-Nantes, donc il y a une gare à Paris, il y a une gare à Nantes, donc a priori c'est bon. Non, c'est pas la gare Montparnasse. Il faut qu'il y ait une gare dans l'aéroport. Donc il faut qu'il y ait une gare entre Roissy et Nantes. Et s'il n'y a pas de gare entre Roissy et Nantes, on ne peut pas le faire, et on laisse l'avion. C'est véridique. C'est-à-dire que vous pouvez lire sur un site qui s'appelle La Grande Conversation. Ça a été outé par un haut fonctionnaire sous couvert d'anonymat. Et l'article s'appelle « Comment stériliser une loi grâce à un décret d'application ». Donc vous vous rendez bien compte que non seulement ils réduisent la portée des lois, mais même parfois ils pondent des décrets d'application pour que la loi ne puisse même pas s'appliquer.
Donc on y est. J'ai lu partout, c'est à cause des lobbies. Et concrètement, vous venez de donner un exemple, mais il s'est passé quoi pour que ce soit détricoté comme ça ? Genre, donc il y a eu cet exemple, il y a eu quoi d'autre ? Parce que on entend c'est à cause des lobbies, où il y a plein de discours, genre, mais de toute façon, etc. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ils ont fait pour tout niquer, en fait ? Plein de détails comme ça ?
Ouais. En fait, les différents secteurs d'activité se sont mobilisés. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à voir quelles étaient les propositions de la Convention citoyenne, ça a été vraiment alerte dans tous les bureaux de l'industrie automobile, de l'aéronautique. Et donc, il y a des gens qui sont venus user de leur influence. Par exemple, dans l'industrie automobile, les citoyennes et les citoyens de la Convention avaient, en discutant avec les experts, s'étaient rendu compte que le pôle numéro un d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les voitures individuelles en France. C'est le pôle numéro un. À l'intérieur des voitures individuelles, ce qui fait le plus monter les émissions de gaz à effet de serre, c'est les ventes de SUV. qui continue à augmenter tout le temps parce qu'il y a des pubs de SUV où il y a un mec comme ça qui conduit dans une route sur une montagne le long de la mer avec une femme sublime et des enfants qui font pas de miettes sur la banquette arrière. Et donc les gens se disent, putain, si j'ai cette bagnole, je vais avoir tout ça là.
Pas de miettes, pas de miettes, jamais. Les sandwichs sans miettes.
Je vais avoir tout. Donc on vend toujours beaucoup de SUV. Donc comprenant ça, les citoyennes et les citoyens de la convention disent, on va faire un malus sur les voitures les plus lourdes. Parce que plus une voiture est lourde, plus elle consomme et donc plus elle émet de gaz à effet de serre. Donc ils disent, ok, on va faire un malus sur les voitures de plus de 1400 kilos. Là-dessus, donc l'industrie automobile se mobilise, au ministère de l'économie, on se mobilise aussi, parce que ça va pas quand même embêter la compétitivité, et on décide de changer cette proposition pour dire non, on va faire un malus, mais pour les véhicules de plus de 1800 kilos. Le problème, c'est que les véhicules de plus de 1400 kilos, c'était 25% du parc, un quart des voitures. Donc c'était une mesure qui avait beaucoup d'impact. Les véhicules de plus de 1800 kilos, c'est 2% du parc. Donc autant vous dire que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'après, quand Emmanuel Macron ou le Premier ministre, je ne sais plus, ça devait être Castex à l'époque, vient dire « nous avons fait une loi climat, nous nous mobilisons, etc. Bah » non, en fait, un malus sur 2% des bagnoles, ça n'a absolument aucun impact. Retirer des liaisons aériennes quand il y a une alternative de moins de 2h30 en faisant en plus un décret d'application, ça n'a aucun impact. Et c'est comme ça à peu près pour tous les sujets. C'est-à-dire qu'on réduit la portée des propositions pour voter un truc qui, dans le fond, est juste un tout petit aménagement à la marge, à un moment où on devrait transformer radicalement la société, où on devrait être dans une espèce de mobilisation comme si c'était la guerre, pour aller vers une forme de sobriété qui est déjà le lot des personnes les moins fortunées, mais qui est une obligation. C'est-à-dire que c'est même pas un « oh, est-ce qu'on fait comme ça ou pas ?» Non, on est obligé de le faire, sous peine que cette planète devienne de plus en plus inhabitable.
Incroyable. Cyril, on pourrait en parler pendant des heures, parce que là, c'est hyper intense, mais en réalité, vous donnez en permanence des clés pour pouvoir résister. Et je voulais juste vous remercier avant de conclure avec un petit jeu pour ce petit manuel de résistance contemporaine que vous avez écrit en 2018 et qui a été mon cours de résistance et qui est incroyable. Donc si vous voulez apprendre à résister d'une façon ou d'une autre, d'une façon moins ridicule que ces larmes qui n'ont rien à faire là, vraiment n'hésitez pas à l'acheter, à le lire, à l'annoter et à aller saboter des pipelines. Cyril,
mais juste avant qu'on conclue, pour pas vous laisser avec ça, je pense que
merci.
Non mais parce que c'est un peu genre ah bah yeah. Non mais pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que si on n'a pas compris qu'il y a des gens qui font délibérément obstruction au changement, on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui engagent des formes de rapport de force et de résistance. Et donc on appelle ces gens des éco-terroristes, des radicaux, des cinglés. Alors qu'en réalité, ces gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'engager ces rapports de force parce qu'il y a des gens qui font délibérément obstruction. Je vous donne juste un tout petit exemple qui illustre ça. Sur les histoires de ZAD, par exemple, l'autoroute A69.
Zone à défendre.
Voilà. Quand les flics sont venus déloger les gens qui essayaient de construire une ZAD, c'est-à-dire d'occuper le terrain pour que cette autoroute ne soit pas construite. Cette autoroute qui n'avait aucun sens parce qu'il y a déjà une route nationale qu'on aurait pu agrandir, parce qu'aujourd'hui, construire des autoroutes, c'est une aberration écologique parce que ça émet tellement de gaz à effet de serre que... il faut pas le faire. Bref, je vais pas rentrer dedans parce que ce serait trop long. On peut se dire, ces gens sont des dangereux éco-terroristes. La loi, c'est la loi. Donc, on les dégage avec la police. Sauf que, qu'est-ce qu'on a découvert ces dernières semaines avec les décisions de justice qui ont été rendues? Il y a 15 mégabassines, donc ces grandes retenues d'eau qui sont faites de façon privée par des agriculteurs.
C'est pas écolo.
Qui sont pas écolo, qui ont été, par exemple, combattus par des militants à Sainte-Soline. Il y a 15 mégabassines qui ont été interdites par la justice récemment. Parce que la justice avait eu le temps, ça a duré 2 ou 3 ans, de se pencher vraiment sur le dossier et de se rendre compte que, bah non, en fait, d'un point de vue écologique, c'est une aberration. Le contournement autoroutier de Strasbourg, qui avait été aussi l'objet de conflits, des militants avaient été délogés sous prétexte que les recours juridiques avaient été épuisés et que donc il fallait poursuivre les travaux. En fait, les recours juridiques qui avaient été déclenchés à ce moment-là, c'était des demandes pour aller en référé, c'est-à-dire pour que la justice prenne une décision plus rapidement. Sauf que pour que la justice prenne une décision plus rapidement sur des sujets écolos, il faut qu'il y ait un danger immédiat. Donc là, ce n'est pas un danger immédiat, puisque les émissions de gaz à effet de serre, elles vont provoquer des morts dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, les référés sont déboutés. Mais ce n'est pas parce que les référés sont déboutés que la procédure juridique ne peut pas aller au bout. Et il se trouve que cette autoroute, ce contournement autoroutier de Strasbourg, a été construit. Et 2 ans plus tard, la justice avait pu terminer son travail et a déclaré que cette autoroute était illégale. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas dû être construite. Sauf que elle avait déjà été construite. Donc il y a un avocat qui s'appelle Sébastien Mabille, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui dit aujourd'hui, les gens qui font des ZAD, en réalité, sont les personnes qui permettent à la justice d'avoir le temps de trancher réellement pour définir si ces énormes projets ou non doivent exister. Donc ceux qui permettent à la loi d'être respectée, ce ne sont pas les gens qui construisent ces autoroutes, ce ne sont pas les policiers qui délogent ces personnes qui essayent d'empêcher ces autoroutes d'être construites, ce sont les personnes qui occupent ces lieux et qui font des ZAD.
Luttez, résistez, faites des ZAD! Dernière question, Cyril, vous parlez souvent d'émerveillement. Qu'est-ce qui vous a émerveillé récemment? À part mon décor. Créé par Fuchsia, une artiste incroyable.
Moi, j'essaye d'avoir des choses qui m'émerveillent tous les jours. Sinon, en fait, c'est nul, la vie. C'est-à-dire que moi, je peux être émerveillé par, un couple de personnes âgées qui se regardent avec des yeux débordants d'amour dans la rue. Je peux être émerveillé par une lumière dans le ciel. Je peux être émerveillé par un mot doux que m'a écrit mon amoureuse. Je peux être émerveillé par... par des gens qui... Moi, ce qui m'émerveille beaucoup et ce qui me permet de tenir, c'est de me rendre compte qu'il y a des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires partout. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que le genre humain est vraiment une catastrophe, qu'on détruit tout, qu'on est nuisible. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est quelques personnes qui, à la tête de gigantesques structures, nous conduisent dans des directions lamentables qui détruisent la planète. C'est pas les gens. La plupart des gens sont super. Même quand ils n'en ont pas l'air. C'est-à-dire que vous commencez... C'est vrai. Genre, ils votent Rassemblement National. Au début, tu te dis, bon... Mais en fait, dès que tu rentres dans la vie des gens, tu te rends compte que les gens passent leur temps à essayer de s'aider les uns les autres, de se rendre service, de faire en sorte que ça marche à peu près. Si c'était pas comme ça, le monde serait invivable. Et donc... Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut donner plus d'énergie à ça. Tu sais, c'est le truc de quel loup tu nourris. Est-ce que tu nourris le loup blanc ou le loup noir à qui tu donnes à manger? Bah, d'une certaine manière, s'émerveiller chaque jour, être dans une espèce de recherche permanente de ce qui fait avancer. Je sais que quand je fais des débats, par exemple, après les films, maintenant, parce que j'en ai fait des centaines, donc maintenant je dis aux gens... En fait, quand vous allez parler, là, si c'est pour m'expliquer que c'est pas possible, ça marchera jamais, que c'est foutu, ça m'intéresse pas. Donc vous pouvez en parler entre vous, c'est hyper cool. Mais moi, je m'en fiche, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour construire un monde dans lequel vous auriez vraiment envie d'habiter? Comment est-ce que vous allez rendre cette planète un peu meilleure? Comment est-ce que vous allez quitter ce monde le jour où vous allez mourir? Et en regardant votre vie, vous vous direz, ben ouais, c'était trop bien, j'ai fait exactement ce que je voulais. J'étais passionné par mes relations avec les autres, par mon métier, j'ai été utile. C'est ça qui m'intéresse. Et d'une certaine manière, on s'en fout de savoir si... Il y a des grandes multinationales qui nous dominent, s'il y a des pays qui passent à l'extrême droite ou si la catastrophe écologique nous guette. De toute manière, la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre toute cette énergie-là au service de la vie chaque jour. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et moi, là, c'est la seule chose qui m'intéresse.
Cyril, pour célébrer la vie, à la fin... De chaque épisode de Il n'y a plus de saison, on chante.
Allez.
D'habitude, les invités, ils chantent pas, mais Cyril, il croit qu'il est obligé. C'est hyper drôle. Mais là, on va créer une chanson. Et est-ce que vous êtes poète aussi? On n'a pas eu le temps d'en parler.
Arrête
pourtant.
De faire croire qu'on se voit, en fait. Enfin, je veux dire, ça a tenu pendant une heure, mais...
Alors, si, si.
Qu'est-ce que tu penses de ça?
Entre gens de gauche, on se tutoie. Cyril, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu es aussi poète? Est-ce que tu connais certains de tes poèmes par cœur? T'es censé faire un spectacle qui s'appelle Résistance poétique en tournée dans toute la France. Me dis pas que t'as tes fiches.
Non, je connais quelques bouts de poèmes par cœur.
Alors, ce que je te propose, c'est que je lance le public sur une chanson. On va créer une chanson avec des mots qui sont sortis un petit peu ce soir pendant l'interview. Et après, tu nous fais de la poésie dessus.
Wow, ok.
C'est toi qui t'es levé, hein, t'étais hyper chaud. Hein. On va le dire à Macron. D'accord, la poésie.
On m'avait dit qu'on chantait Balou.
Ok, on crée une chanson en impro ensemble, ok? Toute cette partie-là jusqu'à ce pilier-là, là, vous chantez avec moi ce que je vais chanter, ok? Zadi, zada, zadi, zada, zadi, zada. Zadi, zada. On est contre la 69. On est contre la 69. On est contre la 69. Pas contre le 69. Hein. Contre la 69. On va pas se gâcher la vie non plus. On est contre la 69. Le 110, le 110. Le 110, le 110. Le 110, le 110. Le 110, le 109.
Rien à l'horizon. Que tempête et foudre, futur cadenassé que les oracles ne cessent d'obscurcir, glace pilée, tôle pliée, amour désincarné. Nous ne voulons pas de ces arcs autoroutiers, non, nous ne voulons pas de ces cubes tractés. Le 110, le 110,
le 110, le 110. Merci à Cyril Dion de nous avoir fait rêver. Merci Cyril.
Merci Swan.
Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Il y a plus de saison. Une émission, ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement, sans qui ce programme n'existerait pas. Et cet épisode existe aussi en vidéo sur ma chaîne Swan Périssé. Et je voudrais remercier Valentine Mabille à la direction de production, Nicolas Béguet, le réalisateur vidéo et son équipe image, Fuchsia, la décoratrice, le décor est incroyable, et Mime, le compositeur. Merci à l'équipe du studio du podcast Binge Audio qui coproduit avec moi cette émission, en particulier Quentin Bresson à la réalisation audio, Camille Codor à la production, Lise Niederkorn et Jeanne Longuigny à la communication et Joël Renez, mon coproducteur. Et enfin, merci à Nicolas Beublé qui a fait toutes les recherches intenses pour cet épisode et à mon co-auteur Mathieu Beigbeder, sans qui toutes ces blagues drôles et lourdes n'existeraient pas. Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle. Il y a plus de saison. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel. Ça s'écrit @TILT-officiel avec un seul L à la fin et pas de E pour apprendre plein de choses.